France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, astralement vôtre. Épisode 2, du côté de l'astrologue. L'une des raisons qui font que l'on adhère à ce que nous révèlent les astrologues tient à ce que l'on appelle l'effet Barnum, du nom de Phineas Taylor Barnum. Barnum était un homme d'affaires, politicien et directeur de cirque américain qui a vécu au XIXe siècle. Il avait un nom assez éloquent puisqu'il était communément désigné comme « le prince des charlatans ». Du prince, il avait en effet le goût de la démesure puisqu'il faisait voyager, dit-on, son cirque dans un immense train composé de 80 wagons et de 3 locomotives. Du charlatan, il avait tous les trucs qui faisaient venir à lui des milliers de spectateurs sous son énorme chapiteau où se pressaient des clowns, des animaux de grande taille, des éléphants dont le célèbre Jumbo et des personnes jetées en pâture au public comme par exemple l'esclave afro-américaine Joyce Heth que Barnum présentait comme l'ancienne nourrice de George Washington et dont il disait qu'elle était âgée de 161 ans. Il faut préciser que Barnum considérait, je cite, « que tout mensonge est acceptable dès lors que le public a l'impression d'en avoir eu pour son argent ». Le rapport de cet homme avec notre sujet du jour, c'est donc le nom qu'il a légué à cet effet Barnum, aussi appelé « effet de validation subjective » ou encore « effet puits ». L'effet Barnum, c'est ce qui se passe dans votre tête quand on décrit un caractère de façon aléatoire, mais en employant des expressions suffisamment générales pour qu'on ait l'impression qu'on parle de nous. Par exemple en disant ceci. Vous êtes une personne qui a besoin d'être aimée et admirée, et pourtant vous êtes critique de vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable, mais vous ne l'avez pas encore totalement utilisé, qui dirait le contraire. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait faire. Bon, à peu près tout le monde peut se reconnaître dans ce genre de description qui revient plus ou moins à décrire les traits psychologiques de, disons, l'espèce humaine. Mais la force de Barnum est qu'il réussissait à faire croire aux spectateurs qu'il avait pris au hasard dans la salle qu'il pouvait lire sans filtre dans leur personnalité, et beaucoup s'y sont laissés prendre. Certains astrologues ont utilisé cette technique. Arnaud Esquéré, vous êtes directeur de recherche en sociologie au CNRS, auteur du livre « Prédire, l'astrologie au XXIe siècle en France » paru aux éditions Fayard. Quelle vous semble être l'importance de l'effet Barnum dans une consultation d'astrologie ?
Alors l'effet Barnum a été plutôt appliqué aux horoscopes, c'est-à-dire à ces textes courts qui se sont popularisés à partir des années 30, 1930 dans les journaux et puis surtout après-guerre, parce que c'était des textes qui étaient rédigés de telle sorte qu'il y avait une description qui pouvait être assez vague, mais dans laquelle on pouvait se reconnaître. Je dirais que dans la consultation astrologique, il y a une autre dynamique qui se met en place et qui résulte beaucoup d'une coproduction entre la consultante ou le consultant et l'astrologue qui à la fois interprète le thème astral à partir de la date de naissance de la consultante ou du consultant et en même temps l'interroge puisqu'il serait un face-à-face.
Est-ce qu'une consultation, c'est un dialogue ou c'est simplement d'appliquer une grille de lecture ?
Dans la consultation en face à face, il se passe quelque chose qui est une interaction entre la consultante et l'astrologue. Interaction d'ailleurs dont la consultante ou le consultant n'a pas forcément conscience après coup. Il peut dire « j'ai rien dit et pourtant il m'a dit des choses très précises sur ma vie ». Et pourtant, elle ou il n'a pas arrêté en fait de livrer tout un tas d'informations à partir de questions ou même d'affirmations qui sont soumises à validation de la consultante par l'astrologue. Cela basé sur le thème astral qui a été fait de la consultante ou du consultant.
Est-ce que comme Barnum dont je parlais dans l'introduction, il y a des trucs qui sont mis en place et qui mettent l'astrologue un peu du côté du charlatan ?
Il y a un ensemble de techniques qui sont utilisés par l'astrologue, par sa pratique, aussi parce que lui-même souvent a été consulté auparavant. La pratique de l'astrologie dans des consultations elle peut être liée aussi à quelque chose qui est comme une sorte de thérapie brève, c'est-à-dire la personne vient consulter un astrologue parce que elle a des soucis, elle a des problèmes dans sa vie, elle a une incertitude sur l'avenir, elle souhaite réduire cette incertitude. L'astrologue, en quelque sorte, va offrir un cadre à partir d'un support qui est donc sa lecture du ciel, à partir de la date de naissance de la personne qui vient consulter. Et bien sûr, il peut se passer plein de choses dans une consultation astrologique, surtout si la personne revient. Par exemple, elle peut revenir d'une année à l'autre et constater que des prédictions qui avaient été faites l'année précédente ne se sont pas réalisées. Face à ces échecs, la question se pose de savoir comment on continue la séance.
Comment est-ce qu'on peut encore croire ?
Comment on peut encore, en tout cas, rester ? Ce qui n'est pas pareil que croire.
Ah bon ? Pourquoi ? Quelle est la différence ?
Eh bien, parce que, si vous voulez, je pense qu'un des, une des mauvaises manières de comprendre la pratique de l'astrologie et la raison pour laquelle on continue à aller voir un astrologue, c'est uniquement de le poser sous la question du rapport à la vérité et à la question de la croyance. Quand quelqu'un vient consulter un astrologue, il se pose pas la question de savoir si ou comment tel astre peut avoir une influence sur tel aspect de sa vie.
Donc il n'est pas dupe, la personne qui consulte sait bien que...
C'est pas son problème. C'est-à-dire, le problème, c'est j'ai des soucis dans ma vie professionnelle, j'ai des soucis dans ma vie familiale ou affective, comment je peux faire pour les résoudre ? Et je vais consulter un astrologue pour essayer de me projeter dans l'avenir et de retrouver de l'énergie aussi pour continuer à avancer.
Les prédictions des astrologues sont donc sujettes à caution, on s'en doutait un peu. Toujours est-il que de hauts personnages de l'État, tout comme de nombreux capitaines d'industrie, ont eu recours à la divination pour faire le point sur des problèmes importants et prendre du recul sur des décisions à prendre. La plus célèbre des relations entre un chef d'État et une astrologue est celle que François Mitterrand avait nouée avec Elisabeth Tessier. Ancienne mannequin et actrice, Elisabeth Tessier avait présenté, au tournant des années 75 et 76, ce fameux horoscope d'Antenne 2 évoqué au début du premier épisode, celui qui avait été rapidement déprogrammé de la chaîne. Il n'est pas difficile de retrouver sa voix dans la salle des archives, car elle a été un personnage médiatique de tout premier plan, des années 70 aux années 2000, par exemple ici, en 1976.
Je vous assure que si je vous fais votre thème, vous serez stupéfait. Des choses que vous découvrez. C'est une psychanalyse.
Mais vous avez fait mon thème, vous me le donnerez après, pas à l'antenne.
Non, j'ai simplement calculé votre ascendant parce que...
Bah parce alors que je suis ascendant quoi, moi ?
Ascendant Lion.
Lion.
Oui. Vous êtes cancer ascendant Lion, ce qui fait que vous êtes à la fois,
je crois que c'est
en
très
gros,
bon, c'est une bonne
émotivité,
chose,
c'est-à-dire c'est le cancer, et élan, vitalité, qui est le Lion. Et je crois que vous êtes caractérisé par les deux, effectivement. Il y a un besoin d'extériorisation qui est très léonine, et puis il y a cette réceptivité cancérienne, sinon vous ne feriez pas le métier que vous faites. Vous êtes constamment, comment dire, vous êtes imprégné par les gens, donc il y a cette
c'est
réceptivité.
C'est un signe de création.
Le Lion, oui.
Pas le cancer.
Le cancer est un signe absolument de création artistique surtout, mais par le truchement d'une espèce d'intériorisation, c'est ça. Alors que le lion est complètement centripète.
Arnaud Esquéré, on sent ici que Jacques Chancel, malgré tout, est très intéressé par ce que lui dit Elisabeth Tessier, parce qu'au fond, il y a quelque chose d'irrésistible dans l'astrologie. Comme elle parle de nous, on ne peut pas y rester insensible.
Il y a évidemment un intérêt qui est motivé par le fait qu'on s'intéresse à ce qu'on est, donc qu'on pourrait dire un intérêt narcissique dans l'astrologie, mais je pense aussi que dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il faut le resituer dans une époque qui est celle d'un essor important de l'astrologie. Dans les années 1950, 1960, 1970, il y a effectivement un intérêt accru pour l'astrologie, avec des personnalités qui sont des astrologues connus, comme André Barbeau, par exemple. Évidemment, il y a Madame Soleil, qui est très connue, Elisabeth Tessier qui arrive. Ces personnalités, elles offrent aussi une visibilité à l'astrologie, alors dans des médias comme Madame Soleil. Et puis, il y a un intérêt aussi qui vient du fait que l'astrologie, la pratique de l'astrologie se transforme. Quelqu'un comme André Barbeau, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse telle qu'elle était pratiquée par le psychanalyste Jung et qui va essayer de croiser en quelque sorte l'astrologie et cette psychanalyse jungienne. ce renouveau crée un intérêt plus important. On peut le voir en termes de publications. Il y a beaucoup plus de traités qui sont publiés. En effet, il y a cet écho et je pense que l'extrait qu'on a entendu, il rend compte de quelque chose de l'air du temps, de cette époque où on a cet attrait pour l'astrologie. Et je dirais aussi, on l'entend dans la tonalité des voix de manière, pense un peu amusé chez Jacques Chancel.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt fort pour l'astrologie ?
Aujourd'hui, il y a un intérêt qui s'est renouvelé pour l'astrologie. Il faut comprendre que l'astrologie, c'est pas quelque chose de monolithique qui s'exercerait de la même manière depuis la Mésopotamie ou la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, ce sont des pratiques extrêmement plastiques. Elles sont d'autant plus plastiques qu'elles ne sont pas institutionnalisées ou qu'elles ne sont pas transmises par des institutions ou des écoles en Europe. Donc, elle ne cesse d'évoluer. Le renouveau qu'on peut constater dans la pratique de l'astrologie aujourd'hui, chez les générations ou dans les générations les plus jeunes, il est lié notamment à un attrait pour les applications numériques et à la manière dont on peut utiliser, par exemple, le signe astrologique dans des sites de rencontres.
Donc, pour vous, ce sont plus les outils qui changent et qui font changer la pratique que un changement un peu anthropologique de la société qui ferait que on s'intéresse pour une raison sociologique ou pour une autre davantage à la sociologie aujourd'hui qu'il y a 10 ans par exemple.
Non, c'est un ensemble de facteurs, c'est-à-dire que d'une part effectivement la technique se modifiant aujourd'hui, vous pouvez utiliser ces techniques numériques à la fois pour calculer l'horoscope de manière plus facile que ce n'était le cas auparavant où il fallait des tables, des éphémérides dans des livres. Deuxièmement, il se trouve que il y a des applications de rencontres et on peut mettre en avant son signe astrologique pour savoir si on est conciliable ou pas conciliable. Et puis, vous avez des questions qui sont des questions sociales liées à la société, c'est-à-dire d'une part le fait que la pratique est davantage exprimée par des femmes, c'est extrêmement genré dans des pays européens. Et puis l'autre élément, c'est peut-être que dans des périodes de forte incertitude, on a envie de recourir à quelque chose qui permette de réduire un petit peu l'incertitude.
Ces quelques mois sur Antenne 2 avaient suffi à faire d'Elisabeth Tessier une star. Outre cet horoscope à la télévision, son autre grand fait d'armes avait donc été de conseiller le président Mitterrand, qu'il a consulté notamment afin de connaître les meilleures dates pour s'exprimer sur tel ou tel sujet. Littéralement, Mitterrand attendait l'alignement des planètes avant de prendre la parole.
Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Elle avait demandé l'autorisation au président de la République d'enregistrer leurs entretiens. Et chose étrange, il lui avait donné son accord.
Simplement, pour vous, ça a été superbe. Et pour Bush aussi. Ça a été superbe. Vous êtes dans une popularité extraordinairement ascendante.
Oui, c'est un peu étonnant pour l'instant.
Hein. Non, c'est bien. C'est extra. J'ai entendu ça avec grand plaisir l'autre jour.
Vous m'aviez d'ailleurs dit à cette occasion qu'il y avait des jours où il valait mieux parler, d'autres jours où il valait mieux pas parler. Mm-hmm. Bon, il va falloir que j'intervienne. Quel est selon vous le meilleur jour à la prochaine
dans les jours qui viennent, là.
Dimanche, lundi, mardi.
Eh bien, il faudrait que je regarde cela, parce que je ne peux pas vous le dire à brûle pour point comme
oui,
ça.
Vous voulez voir ?
Oui, bien sûr, dimanche, lundi, mardi, dans ces 3-4 jours qui viennent.
C'est ça.
Arnaud Escarré, que vous inspire cette archive de François Mitterrand ?
Eh bien, elle m'inspire le fait que souvent, dans les consultations astrologiques, un astrologue peut proposer à la consultante ou au consultant d'enregistrer la séance parce que il va faire une série d'annonces sur l'année qui vient, par exemple, et la personne qui vient consulter va pouvoir réécouter dans le courant de l'année ce qui s'est dit dans cette séance qui est souvent très dense pour savoir si à tel moment il y aura tel élément ou pas à prendre en compte ou quelque chose concernant la vie professionnelle va se produire ou pas. Là, c'est en quelque sorte inversé, puisque c'est pas François Mitterrand qui enregistre la consultation.
Il a donné son accord.
Mais c'est Elisabeth Tessier qui, elle, enregistre le dialogue. Je doute que François Mitterrand aurait réécouté cet enregistrement pour savoir si ce qu'avait prédit Elisabeth Tessier s'était produit en temps et au lieu précis.
Est-ce que c'est pas dangereux qu'un chef d'État prennent des décisions à partir de ce que lui dit une astrologue ou un astrologue.
Alors, on peut aussi rappeler que le couple Reagan, dans les années 80 aussi, consultait un astrologue connu qui s'appelait Carol Reuter.
Mais ça ne rend pas les choses...
Non, mais simplement, je rappelle le fait que ce n'est pas une pratique isolée, je veux dire, de François Mitterrand à ce moment-là. Le deuxième élément, je dirais, c'est quelle est la relation qu'on entretient avec un ou une astrologue ou des prédictions astrologiques. Est-ce que, au fond, ce sont des injonctions qu'on va suivre ou est-ce qu'on a un rapport plus distancié, plus ludique ? Est-ce qu'on y croit sans y croire ? Il y a un texte d'un psychanalyste qui s'appelle Manoni qui dit « J'y crois, je sais bien, mais quand même », c'est le titre de son article qui porte justement en partie sur l'astrologie. Au fond, la question qui se pose, c'est qu'on y croit sans y croire, c'est-à-dire on y croit un peu, mais pas complètement, on en tient compte, mais finalement, on a un rapport distancié à ça qui renvoie à quelque chose d'un peu d'ambivalent dans la personnalité. Et en ce qui concerne François Mitterrand, je ne sais pas.
En tout cas, ça ne vous fait pas peur à vous de vous dire que vous êtes dirigé en partie par des prédictions d'astrologie?
Je crois qu'il y a vraiment des choses plus effrayantes que ça.
Elisabeth Tessier a incarné un renouveau de l'image des astrologues. Son succès était tout à fait dans la tendance des années 80, celle de la télévision et du tournant libéral, celle des paillettes et des grands shows télévisés. Elle n'avait rien à voir avec les anciennes représentations de la voyante, la tête recouverte d'un châle, distillant ses conseils dans une caravane. Une autre astrologue célèbre, Madame Soleil, ne correspondait pas tout à fait non plus à ce cliché. Mais disons qu'à côté d'Elisabeth Tessier, elle incarnait un peu moins la modernité, ne serait-ce que du fait de son âge. Née en 1913, bien avant sa consœur, Madame Soleil évoquait davantage l'image de la grand-mère divinatrice, vieille routière des boules de cristal. Elle semblait issue d'une longue lignée de diseuses de bonne aventure, dont le nom aurait été prédestiné.
Madame Soleil, vous êtes voyante et vous vous appelez Madame Soleil. Est-ce que c'est une coïncidence?
Non, c'est mon nom patronymique. Je m'appelle réellement Mademoiselle Soleil. Mon père s'appelait comme ça et j'ai suivi.
Elle aussi comptait quelques puissants parmi ses clients. Parmi eux, le directeur général d'Europe 1, qui lui avait proposé de présenter une émission sur sa chaîne. Une émission dans laquelle elle prendrait les auditrices et les auditeurs au téléphone et leur dirait leur avenir. Elle avait accepté le défi, et c'est comme ça que chaque jour, le Standard Europe 1 s'était mis à recevoir des appels de la France entière de personnes qui espéraient pouvoir parler à l'oracle. Extrait d'un reportage sur cette émission, nous sommes en 1970.
Je vous appelle au sujet de mon fils. Depuis septembre, il y a ces deux tentatives de suicide. Alors, je suis très préoccupée actuellement à son sujet.
Je vous signale tout de suite qu'il sera en danger. Et il aura tendance à récidiver les actes malheureux qu'il a commis sur lui en décembre et en janvier prochain. On demande souvent si tel ou tel personnage de la famille ne va pas tarder à mourir et si on ne peut pas accélérer les choses, par exemple.
Et est-ce que, par exemple, des femmes vous demandent « Comment puis-je me débarrasser de mon mari ?»
Oh oui, c'est fréquent et vice-versa.
Et est-ce que vous donnez des recettes ?
Jamais. Je n'ai pas à intervenir.
La popularité de cet astrologue était si grande que la locution « être Madame Soleil » était devenue une expression du langage courant, employée là encore jusque dans les plus hautes sphères de l'État par le président Pompidou lui-même, quoique de manière un peu ironique.
« Monsieur, je ne suis pas un diplomate, mais je ne suis pas non plus Madame Soleil, n'est-ce pas ?»
Mais comment voyait-elle, ou plutôt comment envisageait-elle son métier, et qu'apportait-elle à ceux et celles qui venaient la consulter? Pierre Dumayet lui avait posé la question le 8 janvier 1970.
Mais ça sert à deviner, ça sert à voir.
Ça sert à aider les gens. Bon. Les gens bien portants, vous leur donnez une assurance. Vous les regardez, vous les comprenez, vous êtes leur force. Il y a une sorte de phénomène d'osmose entre votre énergie à vous et eux qui viennent en chercher. Alors là, vous leur donnez de l'énergie. Il faut savoir, mon Dieu, attraper les gens, les secouer, les comprendre, les disputer, les encourager, il faut les pousser. Ils viennent me voir, ils ont des raisons.
Alors qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette année, enfin dans cette période dans laquelle nous allons entrer, nous sommes entrés, 70?
Ben, je peux vous annoncer cette année, en ce qui concerne la Russie tout particulièrement, de profonds remaniements dans le gouvernement russe et beaucoup d'ennuis intérieurs.
Père de vous faire rire,
dans
ça.
La Russie. Non, ça ne me fait pas rire, mais il est certain que la Russie, après avoir été très forte, se sent un peu désagrégée de l'intérieur, car elle a aussi une jeunesse contestataire.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Madame Soleil, que simplement en lisant les journaux, sans regarder les astres, vous pourriez avoir la même idée?
Je ne lis pas les journaux, cher monsieur.
Vous pourriez les lire.
Non. J'ai assez de gens qui viennent m'informer de ce qui peut se passer, tant d'hommes politiques que d'autres.
D'accord, mais prenons le marché.
Mais en dehors de ça, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, astrologiquement parlant, nous l'avons prévu déjà depuis un bon moment et que ça se concrétise par les faits.
Que retenez-vous de cette archive, Arnaud Esquéré ?
Je retiens deux choses. La première, c'est que la pratique de l'astrologie peut avoir une portée politique qu'on a oubliée et on l'entend quand elle a des prédictions qui concernent la géopolitique. C'est pas l'aspect de l'astrologie qui est le plus populaire, mais ça a été historiquement important, évidemment, notamment quand il s'est agi en fait d'astrologie qui était pratiquée dans des cours royales, dans des époques plus lointaines, je pense évidemment au Moyen-Âge.
Mais là encore, j'ai quand même envie de vous poser la question, est-ce qu'une analyse géopolitique n'est pas meilleure qu'une analyse astrologique quand il s'agit, je ne sais pas, de déclarer la guerre ?
Oui, très certainement, je pense qu'une analyse géopolitique d'experts en géopolitique est meilleure qu'une analyse astrologique. Mais ce que j'entends dans ce qu'a dit Madame Soleil, qui est, ça sert à aider, donc ces gens ils viennent la voir parce qu'ils ont quelque chose qui ne va pas dans leur vie, ils sont en demande d'une aide, et donc elle va les aider, elle dit qu'elle va leur donner de l'énergie. Et c'est bien ça, en fait, l'enjeu d'une consultation astrologique, où ils viennent rechercher quelque chose qui est de surmonter des épreuves auxquelles ils sont confrontés, et elle peut, en effet, par ce travail, arriver à leur donner de l'énergie. Quand ça marche, voilà, mais il y a aussi des moments où ça marche pas du point de vue de ces consultations astrologiques.
En termes de sociologie, sur les personnes qui viennent consulter, ce sont donc davantage des femmes, ce sont aussi davantage des minorités, Arnaud Esquéré.
D'une manière générale, effectivement, c'est très genré, c'est-à-dire vous avez davantage de femmes qui viennent consulter que des hommes. Elles le disent aussi davantage, c'est-à-dire que les hommes disent moins qu'ils vont consulter un astrologue ou une astrologue. Et elles peuvent aussi, ces femmes, en parler autour d'elles et se recommander un astrologue par le bouche à oreille. Par rapport à ce qui est la question des minorités, la question qui se pose, c'est effectivement, il y a dans des générations plus jeunes le recours ou la valorisation plutôt, je dirais, d'une pratique de l'astrologie chez des minorités qu'on va dire LGBT, QIA+, ou queer, et qui vont avoir une pratique de l'astrologie que je dirais plutôt égotiste au sens où elle est une astrologie pour soi, c'est-à-dire pas nécessairement avec une consultation astrologique, mais on va faire son signe, on va faire son thème astral, savoir si le signe de l'autre correspond ou pas, et aussi avec cette dimension qui est que, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est genré, c'est une pratique genrée. Et donc, le fait de recourir à cette pratique de l'astrologie, même sur un mode ludique, elle peut avoir une dimension où elle peut être politisée, tout est politisable, au sens où ça vient contester justement le mépris que peuvent avoir des hommes hétérosexuels par rapport à cette pratique considérée comme féminine.
Dans les archives de la radio, on entend fréquemment les journalistes demander aux astrologues de leur parler des clients qui viennent les voir et d'en faire le portrait robot. C'est assez logique d'ailleurs, les intervieweurs s'identifient davantage à ces clients qu'aux praticiens, ils n'ont pas tous des talents de divination. Mais de temps en temps, au hasard des écoutes, on tombe sur une question qui vise à faire le portrait robot de l'astrologue lui-même. France Inter, le 11 octobre 1986.
L'astrologie, c'est comme la belote ou le bridge, ça s'enseigne. Isabelle a voulu prendre des cours avec un professeur, Philippe Blaiseau, et elle a voulu savoir tout de suite s'il fallait faire ou avoir fait des études particulières pour devenir astrologue.
En soi, non, puisque ça n'est pas une profession qui est régie par certaines règles. Bon, il s'avère que c'est une profession qui est très liée à celle de psychologue ou de thérapeute. Mais il me semble que la plupart des astrologues qui professent à Paris sont des gens qui n'ont pas de formation extra-astrologique.
En tout cas, il n'y a pas de diplôme d'astrologue.
Il n'y a pas de diplôme d'astrologue, bien que certaines écoles d'astrologie distribuent des papiers qui s'appellent des diplômes, mais qu'on ne peut pas vraiment considérer comme des diplômes.
Ça existe le métier d'astrologue, Arnaud Esquéré ?
Il y a la profession d'astrologue au sens où des personnes s'établissent comme astrologues et font payer leurs services comme astrologues, en général par des consultations. Ils peuvent consulter chez eux dans un cabinet, ils peuvent consulter dans des salons et puis ils peuvent avoir des activités annexes ou autres, en fait, pour pouvoir vivre tout simplement parce qu'ils n'ont pas suffisamment de clientèle avec leur pratique de l'astrologie. Donc, ils peuvent très bien aussi être voyants ou avoir d'autres techniques comme la numérologie, par exemple, ou ils peuvent aussi faire de l'hypnose ou proposer, je sais pas, des techniques plus corporelles, des massages. Ou encore une fois, il y a aussi et d'ailleurs on entend dans ce qu'on a entendu à l'instant, quelqu'un qui parle en fait de l'astrologie et de la thérapie. Il y a des astrologues qui peuvent être d'une part astrologues et d'autre part avoir une occupation en tant que psychanalyste jungien.
Au final, qu'est-ce que l'astrologie nous fait ? Je veux dire collectivement. Quelles sont les conséquences de cette pratique sur la société ? Pour le savoir, le philosophe et sociologue américain Theodore Adorno avait choisi d'étudier la rubrique astrologique du Los Angeles Times, c'était dans les années 50. Après un an de lecture assidue, il en avait tiré la conclusion suivante « L'astrologie renforce la conformité sociale ». En gros, disait-il, l'effet de l'horoscope sur ceux qui y croient est qu'ils ont tendance à accepter leur sort sans protester et sans s'interroger sur la façon dont ils pourraient changer leur vie. Et en effet, pourquoi changer ou tenter de modifier l'ordre social établi si le destin de l'humanité est déjà inscrit dans les astres ? Pour Adorno, l'astrologie serait donc une aliénation bien davantage qu'une libération. Arnaud Esquéré, qu'est-ce que vous pensez de cette étude d'Adorno et de ses conclusions ?
Alors tout d'abord, je parlais tout à l'heure de Carol Reuter. Il a travaillé sur des horoscopes qui étaient faits par cet astrologue qui ensuite est devenu l'astrologue du couple Reagan. Cette étude d'Adorno, donc, qui date des années 50, hein, montre bien l'aspect conservateur à l'intérieur du contenu des horoscopes. Il en tire une conclusion qui est celle d'une soumission à l'autorité parce que lui-même, à ce moment-là, travaille sur la personnalité autoritaire et sur les raisons qui lui permettraient d'expliquer le fait qu'on se soumette à l'autorité. Je pense que les conclusions qu'il tire de son étude peuvent être remises en question ou critiquées, tout simplement parce que quand on interroge des personnes qui lisent leur horoscope de manière courante, on s'aperçoit encore une fois qu'elles peuvent dire y croire sans y croire ou qu'elles peuvent avoir un rapport plus ludique à leur horoscope. Ce qui est sûr, c'est que les horoscopes, dans leur contenu, ont presque toujours, en tout cas, pour ceux qu'on peut lire, un caractère conservateur. Pourquoi ? Parce que il s'adresse à un lectorat ou à un public qui écoute en décrivant l'état dans lequel ils sont. Donc, évidemment, pour que ça soit réussi, ça va décrire l'état de la société telle qu'elle est. C'est pour ça que ça a un côté conservateur. Mais le contenu des horoscopes des années 1950 n'est pas le même que celui des années 2020.
Parce que la société change en même temps que la société.
La société a complètement changé. Simplement, à chaque fois, les horoscopes, en quelque sorte, décrivent de manière conservatrice des sociétés qui changent.
Dans nos vies quotidiennes, nous avons tendance à tout rationaliser pour être le plus efficace possible, avec ce que cela peut créer comme sentiment d'enfermement. C'est peut-être aussi en réaction à ce sentiment que naît le plaisir de l'astrologie. Car cette pratique nous accorde de passer de temps en temps du côté de l'irrationnel et d'ouvrir le champ des possibles, même si l'on n'y croit qu'à moitié. Astralement Vôtre, une série de Salles des Archives en deux épisodes par Mathieu Garrigou-Lagrange, Charlotte Roux et Lily Corner. Prise de son Delphine Baudet, mixage Pierre-Henri, documentation INA Émilie Lacco, documentation musicale Antoine Vuillose.